Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que je vais consacrer aux paysans sans terre, jadis en Basse Marche. Ce sera notre 177e émission et notre 136e chronique. Pour les textes, nous avons fait appel aux ouvrages, aux articles et aux auteurs suivants. Émile Guillaumin, La vie d'un simple. Louis Peignot, La vie quotidienne de nos pères. Et Bergère, Éternelle Bergère. Albert Gourceau, La société rurale traditionnelle en Limousin et Basse Marche. Roger Drouot, La monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Georges Chantemargue, Le métayage à Lessac. Et Monsieur Blanc, Les communautés familiales dans l'ancien droit.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Quelques droits populaires issus de l'ancien régime permettaient à des paysans non propriétaires ou à de tout petits propriétaires de pratiquer au moins l'élevage et la cueillette. Droits populaires oraux, locaux et privés, ils sont, la plupart du temps, transmis par des dictons. Parmi ces droits, on va trouver la vaine pâture, les avantages de certaines louées, le glanage, le droit de pillage, etc., etc. La vaine pâture, écrit Albert Gourceau en s'appuyant sur les études de Marc Bloch, ce n'est pas simplement le pacage sur les friches et dans les bois, mais que depuis le XVIIIe siècle au moins, la législation française désigne par cette expression le droit que possèdent les habitants d'un village de faire paître leurs troupeaux sur les jachères, les terres provisoirement vaines ou vides. Dans nos régions, un espace considérable, la majeure partie des terres labourables sont laissées en guéret, c'est-à-dire vides, après une année de récolte. Aussi, au moins jusqu'à la guerre de 1914, non seulement les friches, ce que nous appelons les landes, les châtaigneraies, mais aussi les champs, après enlèvement de la récolte, les éteules, étaient offerts à la vaine pâture, d'où les vers de cette chanson « Un jour dans les éteules, je gardais les moutons ». Les droits de pillage et le glanage, maintenant, toujours avec Albert Gourceau. Les fruits tombés d'un arbre avançant sur la voie publique, sur les chemins ruraux de desserte, appartenaient à tous et pouvaient être ramassés par le premier venu. Cependant, il était d'usage autrefois de les laisser aux pauvres, à ceux qui n'avaient ni terre ni bois. Ainsi pouvait-il, avec ses fruits, se constituer une petite provision de pommes, de noix et surtout de châtaignes. De même, dans de nombreuses localités de la Basse Marche et particulièrement au Dora, lorsque autrefois on procédait à la pêche d'un étang, il était admis que les poissons qui n'avaient pas passé la bonde et restaient dans la vase ou le sable pouvaient être ramassés par qui voulait. Cette coutume était dite « droit de pillage ». Enfin, une autre tolérance était accordée aux pauvres, celle de glaner dans les champs de blé et de seigle après l'enlèvement des gerbes. S'appuyant sur les études de Robert Savy, Albert Gourceau nous indique que c'est dès le début du XIIe siècle qu'a commencé chez nous l'effritement de la grande propriété féodale ou ecclésiastique. Des bourgeois enrichis, courtiers ou négociants pour la plupart, ont acheté des terres aux anciens possédants. Mais ces terres, il faut les exploiter. Et pour cela, on va faire appel à des fermiers ou à des métayers. Le bail de fermage est un contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet à un preneur pour qu'il le cultive et bénéficie des produits obtenus, et cela moyennant un prix de location fixé en argent. Ces baux de fermage étaient le plus souvent conclus pour des périodes de 3, 6, voire 9 ans consécutifs. Cependant, dans les territoires où l'on pratiquait encore l'assolement biennal, comme dans la zone de Sieux-Vollerie-Breuilhoffa, la durée du bail, comme celle de ses prolongations éventuelles, était fixée à 2 ans. Le bail à colonna ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les fruits avec le bailleur. Nous allons nous intéresser à ces paysans sans terre que sont les métayers. Roger Drouot, dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, nous explique « Le métayage règne en maître dans le pays et les baux à prix faits à l'exploitant, donc les baux de fermage, sont l'exception. Ils ne sont pas plus de 13 dans tout le canton. Le contrat qui lie le propriétaire et le métayer est en général fait pour une année et se continue ensuite par tacite reconduction. » Cette coutume du colonnage remonte fort loin, mais au lieu qu'aujourd'hui, et Roger Drouot écrit sa monographie en 1901, au lieu qu'aujourd'hui donc le propriétaire et le colon partagent les produits par moitié, au XVe siècle, le métayer prenait deux tiers et le maître un tiers. Cela résulte des baux nombreux des archives de Lussac-les-Églises. Précisons qu'à la Libération, la loi ordonnera un retour à ce partage aux deux tiers, un tiers. Il nous précise également que la plupart de ces baux comptaient de nombreuses redevances en nature et des prestations comme les vinades, qui consistaient à aller chercher en Berry le vin nécessaire à la consommation du maître.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans la vie quotidienne de nos pères, Louis Peignot cite les frères Tarot qui expliquent « Connaissez-vous rien de plus triste qu'un déménagement de métayer qui change tout ensemble de maître et de maison, qui se remue suivant leur lamentable et pittoresque expression. Le berceau sur la charrette voisine avec la cage à poulet, la femme est là, dans ses atours du dimanche, et l'homme s'en va devant ses bœufs, son aiguillon sur l'épaule, poussant son monotone « Ah ! Ah !» où j'ai toujours senti la résignation paysanne. Louis Peignot raconte dans « Bergère, éternelle bergère » un tel déménagement dans la région de Roussac. Les métayers du domaine de Douai partirent pour la Saint-Martin. Au petit jour, les voisins, des parents pour la plupart, arrivèrent avec des charrettes. On commença à charger les meubles et les outils. Pauvre mobilier en vérité. Deux massives commodes de cerisier piquées de verre, un vaisselier bruni par les fumées de la cheminée, quelques chaises mal rempaillées, la lourde et longue table avec ses deux bancs, les marmites, l'houle, le crible aux châtaignes, les lits de bois, les paillasses et les couettes de plumes, la brolingue, où des générations de nouveau-nés avaient dormi, des seaux de bois, la couade. Les écuelles de terre brune fêlées mais soigneusement rafistolées d'un lignol de fer, les écuelles de bois des vieux, les assiettes de faïence peintes avec leurs coques au panache terni, les cuillères de plomb s'empilèrent dans des paniers rembourrés de foin. Les hommes chargèrent les rabales, la herse, le vieux tarare poussiéreux, les fléaux, les dards, les faucilles, les fourches, les râteaux et tous les outils aux manches luisants à force d'avoir été serrés vigoureusement par des mains calleuses. Sur d'autres charrettes, on chargea la mai, les longues pelles, le lourd balai du four, les palisses à paille tressée où lève la pâte des tourtes. Les poules crièrent longuement avant de se laisser enfermer dans des cages et la plume vola. Les lapins se tenaient blottis au fond des caisses, avec des lueurs d'effroi dans leurs gros yeux ronds. Une à une, toutes les pièces de la maison se vidèrent dans des nuages de poussière. Puis, ce fut le tour de la grange, où il ne resta que le foin que l'on reviendrait chercher. Après que les hommes eurent mangé les châtaignes blanchies, Julie détacha la crémaillère, symbole du foyer, et le convoi se mit en route. Seul, le chat, qu'on avait pu prendre, restait dans la maison vide. Les chiens suivaient les brebis et le porc que les femmes poussaient devant elles à coups de verge très légers. Les charrettes s'en allaient par les mauvais chemins sous les chênes ébranchés pour la broute de l'hiver.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Avant d'emménager dans un nouveau domaine, il faut d'abord que les métayers acceptent les conditions imposées par les propriétaires. Que ce dernier appartienne à la noblesse ou à la bourgeoisie, qu'il ait réputation de charité ou de cupidité, qu'il se dise républicain ou conservateur, les contrats de métayage se ressemblent. Pour le métayer analphabète, auquel sont lues les conditions du contrat, il n'y a pas de discussion possible. Le bail est à prendre ou à laisser. Voici ce qu'écrit Émile Guillaumin dans La vie d'un simple. C'est un métayer qui s'exprime. Il fallait 2000 francs de remboursement sur le cheptel. Les intérêts à 5% du reste s'ajoutaient aux 400 francs de l'impôt annuel. Pour l'amortissement, le propriétaire retiendrait une part sur les bénéfices. J'aurais à faire tous les charrois commandés par le château ou la propriété. Ma femme donnerait comme redevance sur ses produits de basse-cour 6 poules, 6 chapons, 20 livres de beurre, lait d'Inde et les oies, se partageant par moitié selon la règle. Le maître se réservait pour chaque année le droit de modifier les conditions ou de nous donner congé, sous cette réserve que nous devions être prévenus au moins 9 mois à l'avance. On le voit donc, dès son entrée en fonction, le métayer se trouve-t-il muselé, contraint d'emprunter de l'argent à son nouveau maître pour couvrir sa part de bétail et de semences, pour se nourrir, même s'il a dû déguerpir du précédent domaine en laissant toute sa récolte. Essayons d'examiner plus en détail ce que sont ces contrats de métayage dans notre région. La durée d'abord. En Haute-Vienne, la durée du bail était jadis fixée à 1 an avec faculté de renouvellement par tacite reconduction. Mais parfois, surtout après la guerre de 14-18 et dans les anciens cantons de Bessines et Château-Ponsac, on trouvera des baux de métayage fixés à 3, 6, voire même 9 ans. Dans notre zone, et particulièrement dans les anciens cantons de Bellac, Mézières, Bessines, Château-Ponsac, Le Dorat, Magnac-Laval et Saint-Sulpice-les-Feuilles, l'entrée en jouissance avait lieu à la Saint-Martin, c'est-à-dire le 11 novembre. Dans les anciens cantons de Nantes et de Niolles, c'était plutôt vers le 25 octobre. Pour passer le bail, il était rare que l'on aille chez le notaire, la loi n'exigeant qu'un sous-saint rédigé conformément à un contrat type que l'on recopiait sur le livre de compte avec l'inventaire pris en charge par le colon entrant. Ce livre de compte était conservé par le propriétaire ou son régisseur qui y inscrivait, on disait qui marquait, les différentes opérations de vente d'animaux ou les avances du propriétaire.
Thank you.
Quelles étaient les dispositions relatives au cheptel ? J'emprunte les informations à Albert Gourceau. Le cheptel mort était pris en charge au vu d'un inventaire dressé contradictoirement entre les trois parties, le propriétaire, le métayer sortant et le métayer entrant. Le cheptel vif est pris en charge après estimation. Cette estimation se faisait au dire de deux experts, payés l'un par le métayer sortant, l'autre par le métayer entrant. Cette estimation se faisait soit à la valeur des cours des foires des trois derniers mois, soit à l'estimation dite sous-barge, c'est-à-dire au prix marchand auquel on ajoutait la valeur du foin se trouvant dans les barges. À noter qu'en dehors du poids de l'animal s'ajoutent des critères de l'âge et de la race. Cette estimation était particulièrement complexe. C'est ainsi que les chevaux, les ânes, les boucs et les chèvres étaient estimés directement en argent. Les moutons, eux, étaient comme le porc, tantôt pris au poids, tantôt estimés directement. Les chiens appartenaient au métayer. Les ruches étaient simplement prises en compte sans être estimées. Les pailles, les foins et autres fourrages étaient cubés et estimés alors que les fumiers étaient simplement pris en compte.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Les choses sont aussi très complexes pour ce qui concerne les terres et les cultures. Au moment de la nouvelle installation, le 11 novembre, en basse marche, se trouvaient déjà en terre les emblavures d'hiver, les semis de menues graines comme les raves ou le colza, les topinambours, les trèfles et les luzernes. Pour leur exploitation, il y avait plusieurs solutions. L'ancien métayer venait chercher sa récolte l'année suivante et la partageait avec le propriétaire. Si c'était le propriétaire qui avait avancé les graines semées par le sortant, c'est son remplaçant qui récoltait pour le compte du maître. Enfin, si c'était l'entrant qui semait et récoltait, le sortant devait lui prêter les attelages et les équipements nécessaires. Il y avait toute une série de règlements assez proches concernant les menues graines, les prairies artificielles, les topinambours, etc., etc. Très fréquemment, le nouveau métayer ne possédait pas le grain indispensable pour sa propre nourriture. Il était d'usage pour le propriétaire de lui faire les avances nécessaires. Ces avances qui devaient être remboursées lors de la première récolte variait de 2 à 3 hectolitres par personne adulte de la famille. On voit que la première récolte du nouveau colon était très fortement amputée par ses dettes de départ.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Comment se répartissent les responsabilités et les revenus entre le propriétaire et le métayer ? Le propriétaire assurait l'entretien des bâtiments et, en règle générale, payait l'impôt foncier. Mais, en basse marche, pendant longtemps, les impôts se payèrent par moitié. C'est le propriétaire qui dirige l'exploitation et fixe les assolements. Le métayer, lui, devait maintenir les terres en bon état, de labour et propre. Les prés devaient être balayés chaque année, les fossés et rigoles d'irrigation refaits et désembourbés tous les hivers. Les arbres têtards plantés dans les haies devaient être curés tous les 3 ans. Le bois de fagotage ainsi obtenu était laissé au métayer qui s'en servait pour son chauffage et la cuisson de ses aliments. Pour le gros bois de bûche, le propriétaire désignait les arbres à abattre et c'est le métayer qui se chargeait de la façon. Le métayer devait transporter gratuitement, avec les animaux et le matériel du domaine, les matériaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des bâtiments, ainsi que la part de bois de chauffage et la part des récoltes du propriétaire. Précisons qu'il lui était interdit de faire d'autres charrois sans l'autorisation du propriétaire. Les dépenses de chaux et d'engrais se payaient à moitié ou aux 2/3 selon les cas. Les arbres forestiers et les arbres fruitiers étaient fournis par le propriétaire et mis en place par le métayer. Le métayer tirait sa litière de la fauche des Landes et des châtaigneraies en utilisant donc les ajoncs nains, les fougères, les bruyères et les feuilles mortes en mélange. Concernant les battages en machine, les frais de battage étaient à la charge des propriétaires. Par contre, la nourriture et la main d'œuvre étaient à la charge des métayers, à l'exception de la viande de boucherie et du vin. Concernant maintenant le partage des produits, jusqu'en 1945, le partage avait lieu de moitié. Concernant les céréales, le seigle, l'orge et l'avoine n'étaient pas partagés, mais laissés au domaine pour la nourriture des animaux, et cela, surtout, à compter de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour le blé, en règle générale, seul était compté et donc partagé la quantité de blé recueilli au trémie de la batteuse. Les grains tombés en dessous étaient laissés pour la volaille. Concernant les cochons, le métayer en élevait 2 ou 3 pour lui et autant pour son maître. On partageait la grosse volaille, les dindes, les oies, les canards, mais la petite volaille appartenait à la fermière qui, néanmoins, devait fournir un certain nombre de poulets et de douzaines d'œufs dans l'année. Il y a bien sûr partage lors de la vente des animaux, particulièrement des bovins, mais après avoir prélevé, nous dit Georges Chantemargue, dans une étude de 1930 sur le métayage à Lessac, près de Confolens, après avoir donc prélevé une petite somme, dite la prime, qui est attribuée au métayer pour l'encourager. Tout ce qui était produit dans le jardin du métayer lui appartenait, mais les fruits cueillis dans le restant de la propriété étaient partagés.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Voyons l'exemple d'une exploitation d'une 40aine d'hectares en métayage dans la région de Blond en 1903. C'est un exemple cité par M. Blanc dans son étude sur les communautés familiales dans l'ancien droit. Jean R. ne possède rien. Il vit et fait vivre sa famille avec les produits du domaine. On peut évaluer à 3000 francs environ la part qui lui revient après le partage fait par le maître. Il peut avoir dans sa basse-cour le nombre de poulets qu'il désire. Il doit seulement donner au maître 6 poulets, 6 chapons, 200 œufs, 30 fromages, la moitié des dindes, des oies, des canards et des chevreaux. Il possède encore un troupeau d'une 20aine de moutons dont le bénéfice se partage entre le maître et les enfants. C'est un encouragement au travail qui est accordé aux jeunes. De même, les femmes ont leur porc dont le prix de vente leur est laissé. Les jeunes garçons ont certains veaux dont ils bénéficient seuls. C'est une coutume locale destinée à procurer quelques douceurs à ceux qui sont sous la dépendance du chef de communauté. Les conditions de ces métayers sont difficiles, mais ils exploitent souvent de grandes exploitations. Et parmi les paysans sans terre, ils occupent une position enviable, supérieure parfois à celle de tout petit propriétaire. En tout cas, bien supérieure à celle des journaliers ou des domestiques de ferme. Exploités eux-mêmes par leurs maîtres, les métayers exploitent à leur tour tout le personnel qu'ils emploient. Les membres de leur famille tout d'abord, les domestiques et les journaliers engagés pour des salaires de misère. On trouvera aussi des enfants de l'assistance publique qui resteront généralement auprès de leur famille adoptive, se contentant d'une paire de sabots, de quelques hardes et d'un lit de fougères ou de paille dans l'écurie.
Lisant donc la simple histoire, chantant nos cœurs et nos cerveaux, l'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Paysans dont la simple histoire chante en nos cœurs et nos cerveaux, l'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Allons-nous, esclaves placides, dans un sillon où le sang luit, rester à piétiner au bruit des Marseillaises fratricides. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots. Marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. À la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetières.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche que j'ai consacrée aux paysans sans terre, jadis en Basse-Marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie d'Émile Guillaumin, de Louis Peignot, d'Albert Gourceau, de Roger Drouot, de Georges Chantemargue et de Monsieur Blanc. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au compositeur Frédéric Laurent, au groupe Maluzerne, aux musiciens de Saint-Julien, au chœur de clarinette de Fribourg, au troubadour Galapia et au chanteur Gérard Pierron, qui nous interprète en ce moment la paysanne, connue sous le titre « La Marseillaise des paysans » de Gaston Coutet. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Gourcerolles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche qui sera consacrée au pain, jadis, en Basse-Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Hypocrites dans les barrières chaque jour, dans le sentier des marguerites, arrête les pas de l'amour. Plus de morales hypocrites dans les barrières chaque jour, dans le sentier des marguerites, arrête les pas de l'amour. Et que la fille mère quitte ce maintien de honte et de deuil pour étaler avec orgueil son ventre où l'avenir palpite. Semons nos blés, soignons nos souches, colore nourricier du soleil, en plus pour toutes nos bouches, les piblons, le raisin vermeil. Semons nos blés, soignons nos souches, colore nourricier du soleil, en plus pour toutes nos bouches, les piblons, le raisin vermeil. Et seule guerre nécessaire, faisant la guerre au capital, puisque son or, soleil du mal, ne fait germer.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.